Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti!
Aujourd'hui, on vous propose un petit bilan et perspective de la campagne présidentielle qui a commencé par une tentative d'union de la gauche et fini avec la NUP, avec le passage éclair de Taubira, de la grande cause du quinquennat, les larmes de Valérie Pécresse et la libération de la parole des femmes, comme on dit, et le burkini, et puis, bien sûr, la réélection d'Emmanuel Macron, une nouvelle fois face à Marine Le Pen. Pour parler de tout ça aujourd'hui, je suis avec Anne-Laure Pinault. Bonjour Anne-Laure.
Coucou Rachel, premier épisode ensemble.
Eh oui, ça fait plaisir. Alors, ce gouvernement, tu en penses quoi ?
Eh bien, comme beaucoup, j'ai pas trouvé très étonnante la formation de ce gouvernement. J'ai trouvé ça assez dingue, ces personnes un peu token, enfin c'est comme ça que je l'interprète. Donc l'arrivée de Pap Ndiaye à l'éducation nationale, Rima Abdul-Malak aussi, qui était auparavant conseillère culture de Macron, donc c'est notre ministre de tutelle. Et derrière ces personnes, c'est quand même vraiment le vieux monde qui s'exprime, avec évidemment la réélection, la reconduite de Darmanin, de Le Maire, de Dupond-Moretti. En même temps, en dessous de la Tour Eiffel, ils étaient vraiment très très sympas avec le président élu, donc ça ne m'étonne pas. Il faut donc prévoir une bonne casse sociale et cette fameuse grande cause du quinquennat, donc le féminisme, je pense qu'on peut d'ores et déjà dire qu'il est un peu foulé comme un vieux paillasson. On peut aussi dire que Pannier-Runacher à la transition énergétique, c'est quasiment comique.
Il va y avoir du nucléaire dans l'affaire.
Voilà, c'est sûr. Donc cette personne est passée quand même par le ministère de l'économie. Elle a été chargée de l'industrie, donc super. Les prises de guerre de Macron dont il se vante, outre la première ministre présentée un peu comme une ancienne proche de Jospin, on rigole un peu. Son côté gauchiste est quand même mort et enterré depuis belle lurette, mais bon. Il y a aussi Abad qui a été chopé aux Républicains pour être mis aux solidarités.
Et il est accusé de viol. Voilà, tout simplement, par deux femmes quand même.
C'est ça, à Badou Carré. Donc bref, tout un programme. Même au sport, il a mis Amélie Oudah-Castéra, qui a plutôt un profil économique. Son côté tenniswoman professionnel arrive un peu en second lieu, j'ai l'impression. Isabelle Rome à l'égalité femmes-hommes, ça a du sens, mais j'ai l'impression que ce sera un peu l'épouvantail à critique. Non, regardez, on a mis Isabelle Rome. On a compris des trucs. Chiappa, par exemple, ne revient pas. Quant à Chrysoula Zakharopoulou, elle est quand même passée de l'endométriose à la francophonie.
Bon, c'est des sujets liés, Anne-Laure, tu peux pas le nier quand même.
Non, c'est vrai, t'as raison. En tout cas, ça aurait été sans doute un peu fort de mettre une gynéco à la santé. Certains se seraient étranglés. Et toi, t'en penses quoi ?
Bon, alors dans ce gouvernement, il y a 14 hommes et 14 femmes, dont la première ministre.
Wow.
Je crois qu'il faut quand même le souligner, c'est que la deuxième fois en France... C'est donc un événement, quoi qu'on pense, des convictions féministes ou non d'Elisabeth Borne. D'ailleurs, j'adore quand tous les éditorialistes de droite nous disent « Non mais, c'est la compétence qui prime, ça devrait pas être un événement comme ailleurs en Europe. » Bon alors, primo, comme le dit bien Alice Coffin dans un papier que j'ai écrit sur le sujet, je cite « La compétence est une fable » ou alors cela reviendrait vraiment à dire que les hommes sont plus compétents que les femmes puisque jusque-là, 23 premiers ministres hommes sur 24 sous la 5e République. Et puis deuxio, en Europe, Angela Merkel à la tête du gouvernement 15 ans en Allemagne et Thatcher 11 ans au Royaume-Uni font figure d'arbres qui cachent la forêt d'hommes en quelque sorte. J'ai compté. Et si on prend juste l'ancienne Europe des 15, on a seulement 12 femmes qui ont dirigé des gouvernements contre 1000 hommes et la moitié de ces femmes n'ont été en place qu'un an maximum. Par ailleurs, sur la composition du gouvernement qu'Elisabeth Borne juge paritaire et équilibré, il y a à redire. Si on regarde l'ordre protocolaire, l'ordre d'importance, parmi les 10 premiers ministres, on trouve 7 hommes. La seule femme avec un portefeuille dit régalien, c'est Catherine Colonna aux affaires étrangères. Et puis tout en bas, pour faire bonne figure, les 4 secrétaires d'État sont des femmes, 4 femmes. Ça ressemble presque à un raccord de dernière minute.
Oui, pour ton histoire de compétences, j'écoutais Amélie Mauresmo hier, qui était invitée à France 2 en tant que présidente de Roland-Garros, et ce qu'elle disait, c'était « Oui, mais en fait, c'est pas parce que je suis une femme, vraiment, j'ai envie qu'on retienne mes compétences. » Et j'avais voulu dire « Mais les deux sont importantes, madame la présidente. »
C'est vrai que de se dire qu'on en est encore à se dire « Ah, c'est, pour la première fois, c'est une femme », c'est un petit peu dommage. Donc moi, j'attends le jour où... On passera au-delà de tout ça, on parlera plus de genre et on parlera de compétences, d'aptitudes, effectivement.
Voilà, Amélie, on t'adore, mais tu seras gentille de ne pas sous-entendre que toutes les autres femmes avant toi étaient incompétentes.
Oui.
Bon, et puis là, c'était l'actualité, ce nouveau gouvernement, mais on peut revenir sur ce qui a fait cette campagne électorale, ce bilan. Toi, tu fais quoi comme bilan, Anne-Laure ?
Bah, je vais être pas très originale, mais à mon sens, la campagne a été chaotique de bout en bout. Ces histoires de primaire, déjà, je pense qu'à chaque fois qu'on essaie de faire les choses à l'américaine, ça rate de A à Z. Chez les Républicains, par contre, ça a été un peu jouissif, le balayage direct de Xavier Bertrand au profit de Pécresse. J'avoue que c'était un petit peu un spectacle à regarder, cette déchéance viriliste. Et puis, le dérapage absolu du rassemblement de la gauche avec... En avril 2021, cette photo de famille d'ailleurs un peu nulle au bord du canal, suivie des candidatures éclatées de toutes parts et l'affreuse primaire populaire qui finit complètement le sketch. Vraiment, c'était un peu triste à regarder. D'ailleurs, les résultats de cette primaire populaire ont laissé complètement indifférent. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était un peu triste de voir Taubira se battre avec sa victoire. Bref, le soulagement était de mise, la lassitude et l'inquiétude vraiment aussi. Pour moi, cette campagne présidentielle, elle s'est terminée comme une marche de zombies avec valse dans la foulée, au pied de la tour Eiffel. Franchement, il manquait plus qu'un concert de Faudel et on était complet dans l'impression d'un mauvais film de série B. J'ai l'impression que la campagne pour les législatives est un peu plus intéressante, comme si c'était là où tout se jouait finalement. Toi, t'en as pensé quoi ?
Bah, c'est vrai que plein de gens l'ont répété, ça a été une campagne très bizarre qui n'a pas vraiment eu lieu, prise entre le Covid et la guerre en Ukraine, et puis avec un président qui n'a pas vraiment daigné descendre dans l'arène avant une dizaine de jours avant le premier tour. En fait, il est surtout entré en campagne au soir du premier tour, pour la finale, un peu comme si la présidentielle, pour lui, c'était comme tout le monde veut prendre sa place. Moi, je retiens deux choses. D'abord, l'incroyable campagne de normalisation de Marine Le Pen, qui a fait campagne avant le premier tour quasiment sous le radar, en oubliant presque les thèmes de l'immigration et de la sécurité. J'ai dit presque. Franchement, il y avait de quoi flipper, de voir à quel point elle a marché sur l'eau à un moment. Le naturel est revenu vite au galop dans l'entre-deux-tours pour la faire perdre plus largement que prévu quand même. Et puis par ailleurs, je veux aussi retenir que la gauche n'est pas du tout morte dans ce pays. On y reviendra quand on parlera de la NUP. La plupart des sondages prévoyaient que l'addition des candidats et candidates de gauche donnerait un résultat encore plus faible qu'en 2017. Finalement, ce total, il est en progrès de 5 points. C'est pas le Pérou, c'est même pas le deuxième tour. La gauche en est même exclue pour la troisième fois en 5 élections, c'est vrai. Mais il y a un tiers du pays qui se trouve là. Peut-être que ça compte quand même.
Et les femmes dans la présidentielle, t'as parlé de Marine Le Pen, mais quand même, elles étaient un peu présentes, plus que d'habitude, non ?
Oui, Emmanuel Macron a décidé de reprendre sa grande cause du premier quinquennat pour le deuxième quinquennat, donc l'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui sous-entend un peu que la première fois, ça n'a pas bien fonctionné.
Et c'est encore.
Le premier quinquennat a été une accumulation de trahisons avec, contrairement aux annonces, pas de première ministre à l'époque. Et puis la nomination de Marlène Schiappa aux convictions, disons, fantômes. Et puis évidemment, en 2020, la nomination de Gérald Darmanin à l'intérieur. Les hauts cris des associations féministes n'y ont rien changé. Grande cause, petit bilan, a dit Sandra Lotte-Fernandez, responsable du plaidoyer droit des femmes d'Oxfam France. On peut y dire sans surprise que le bilan est insuffisant pour un président qui se déclarait candidat féministe en 2017.
Automne 2016, je suis alors uniquement candidat et encore pas déclaré. La première chose sur laquelle je m'engage, ce sont les violences faites aux femmes dans les transports. À cette époque-là, on est bien avant MeToo, tout le monde me rit au nez. Si c'est ça son programme, il est amusant lui, mais ça marchera pas. C'était ce qui ressortait de la grande marche qui s'était tenue tout l'été 2016. Je m'engage sur une grande cause qui est du quinquennat, qui sera l'égalité femmes-hommes. Les violences. Et dès novembre 2017, avec un projet qui aboutira sur le Grenelle, avec beaucoup de réformes, je vais y revenir, et des résultats. Et après, les autres sujets qu'on évoquera, l'égalité salariale, la représentation et autres. Il y a un bilan qui est là. Est-ce qu'on change une société en 5 ans ? Non. C'est pour ça que la décision que j'ai prise, c'est de m'engager sur 5 ans à venir encore, et de dire, la grande cause du prochain quinquennat, si les Françaises et les Français me font confiance, ce sera l'égalité femmes-hommes. Encore.
Les droits des femmes, c'est toujours 0,25% du budget général de la France en 2022.
Waouh ! Alors quand même, pendant la campagne, c'était un peu historique de voir toutes ces femmes présentes quand même dans les derniers mètres de la course, avec Marine Le Pen, Valérie Pécresse, et on peut aussi parler de Christiane Taubira. Et j'ai eu l'impression en tout cas que pour la première fois, le politique situé a pu se retrouver dans certains argumentaires ou éléments de com' des politiques. Bon, pour revenir sur Marine Le Pen, il y a eu ce truc, cette présence de chat. Bon.
Et de sa colocataire.
Oui, c'est vrai que c'était sorti. Oui, je vis en non-mixité féminine, chat. Et ce fameux slogan « femme d'État » que j'ai trouvé d'une efficacité sans nom.
C'était bien vu.
Si c'était une gauchiste, j'aurais dit « waouh ». Mais ce n'était pas du tout.
Non, c'est pas ça.
Pas du tout une gauchiste. Et Valérie Pécresse, toujours à droite, qui a compris que rien de tel qu'une femme pour faire le ménage, c'était juste pas possible de le dire en 2022.
Aujourd'hui, le sujet, c'est celui de la propreté. Moi, je veux une région propre. Et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage.
Bon, elle a quand même ressorti le coup du karcher de Sarko, c'était quand même pas très bien choisi non plus. Mais dans le deuxième épisode du podcast de sa campagne, oui, elle avait fait un petit podcast pendant sa campagne, si ça vous a échappé, elle n'a pas hésité à mettre le paquet sur la question du féminisme, enfin à son échelle, et à rendre compte du sexisme qu'elle a dû subir dans sa carrière politique et des répercussions de son engagement sur sa vie personnelle. Elle a dit qu'elle a dû se blinder plus que sans doute un homme, ce qui est déjà quelque chose de chouette à entendre pour ces auditrices de droite qui sans doute ne sont pas trop déconstruites.
Pour insister sur Valérie Pécresse, elle s'est pris de plein fouet le fait que les qualités attendues d'un bon candidat et donc d'un bon président, ce sont des qualités qui sont codées hommes en quelque sorte. Vous avez sans doute au moins entendu parler du fameux meeting de la candidate de droite au Zénith de Paris. La manière avec laquelle elle a discouru a été largement moquée et c'est vrai que c'était très mauvais, objectivement.
Du mauvais théâtre, oui.
Voilà.
La France, je l'aime corps et bien. Plus je la parcours, plus je l'étreins. Plus je l'étreins, plus elle m'émerveille. Et plus je sens monter en moi une impatience, celle de voir notre nation retrouver cette force qui appartient aux nations gagnantes. Cette force, je l'ai en moi.
Ce qu'elle a expliqué, c'est qu'elle s'est confrontée au code masculin. Nos référentiels pour ce que c'est qu'un bon discours, un bon coup, une bonne punchline, ils sont masculins. C'est parfois niché très insidieusement en nous, même quand on essaye de faire gaffe. Alors, quand c'est les gars qui débriefent sur les plateaux des meetings, je vous raconte pas. Valérie Pécresse, c'était aussi la première femme candidate de la droite à la présidentielle. Anne Hidalgo représentait, elle, le PS. Donc, les deux anciens grands partis avaient des femmes comme candidates à un moment où leur situation respective est plus que compliquée. Je peux pas m'empêcher d'y voir un bel exemple de la falaise de verre, vous savez, quand on appelle une femme quand la situation est désespérée, et vu les résultats, effectivement, on ne s'était pas trompé.
Et puis aussi, il y a eu l'apparition du féminisme intersectionnel, pour la première fois en tout cas dans la campagne, enfin de façon un peu visible, dans le paysage politique, en tout cas à la faveur de la personnalité de Sandrine Rousseau, on en reparlera, et puis d'Alice Coffin à l'échelle locale quand même, qui a fait entendre sa voix, sa douce voix. Toutes les deux ont réussi, je trouve, une belle opération de com sur ce qui est considéré par beaucoup comme, je sais pas, un congrégat de sorcières. En tout cas, je trouve qu'elles ont fait entendre une voix différente et leurs arguments à des oreilles bouchées par le cérumen. Et on les a aussi retrouvés là où on les attendait vraiment pas, genre sur BFM TV, de façon régulière. Et ouf, quoi, ça fait un bien fou.
Il y a eu aussi le cas de Taubira dans cette campagne. On se souvient tous et toutes de sa petite vidéo façon preview à la mi-décembre. Et ce, après des mois, mais que dis-je, des années après le lancement de la campagne citoyenne Taubira pour 2022, lancée par d'enthousiastes supporters et supportrices.
J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union.
Elle s'est donc lancée un peu après tout le monde, même bien après tout le monde, sans programme. Sa seule personnalité brillante de gauche n'a pas suffi à emporter l'adhésion des ténors des autres partis qui l'ont un peu laissée de côté, ce qui a été rendu archivisible par les résultats de la primaire populaire dont on a parlé plus tôt et qui a fait un flop. Mélenchon, par exemple, a expliqué que Christiane Taubira avait enfilé la chaussure qui avait été préparée pour elle. Peut-être qu'elle a fait les frais de cette image de figure de l'espoir qu'on lui a collée sur les épaules.
J'avoue que pour ma part, j'ai pleuré le jour où elle a déclaré sa presque candidature. Je me disais, ah enfin, je vais voter avec espoir pour la première fois dans ma maigre carrière d'électrice.
Eh bien, c'est raté, Anne-Laure.
C'est bien raté, oui.
Bon, Emmanuel Macron a été réélu. Qu'est-ce qu'on peut penser, Anne-Laure, de ce début de second mandat?
Ah, le retour en sacre de Jupiter, ouais. C'était quand même un peu terrible à regarder, même si on s'était toutes et tous résolus à ce coup du sort. Il fallait bien que ça arrive. Donc la marche lente avec les enfants, avec Brigitte qui suit, les DJ qui mettent leur musique bien trop fort, c'est totalement ridicule, c'est en dissonance. L'entourage LREM, archi content sous la tour Eiffel, et Valls qui s'incruste, c'était atroce. Mais bon, le cosmétique de cette opération, c'était censé nous montrer, ou nous faire comprendre en tout cas, qu'on entrait dans une nouvelle ère. Bon.
Et il était seul en 2017 au Louvre, là il était entouré au Champ de Mars en 2022.
Avec les enfants, car il pense à l'avenir, nana.
Bien sûr.
Premier changement du quinquennat, c'est la première ministre, ou devrais-je dire le premier ministre, parce que Zemmour déteste la première ministre.
Faut noter que dans le décret de nomination, contrairement à Edith Cresson il y a 30 ans, il a été dit qu'elle était nommée première ministre.
Ah, quand même les choses avancent. Bref, ça a mis des plombes à sortir. On s'était dit, va-t-il le faire ce coup-ci? Oui, il l'a fait. Mais il y a eu un gros battage médiatique sur cette affaire de Première ministre. C'est sûr que Macron ne pouvait pas faire l'impasse cette fois-ci, quoi.
C'était très compliqué.
Ouais, vraiment très compliqué. Et donc, en tout cas, pour la première version de son gouvernement, on espère que c'est la première version, il a mis Elisabeth Borne. C'est la deuxième femme nommée à ce poste. En effet, tu viens de le dire, Edith Cresson avait déjà été première ministre. Et à mon sens, Elisabeth Borne, elle est doublement essentialisée dans son identité de femme anciennement de gauche. C'est un peu « waouh, regardez qui on a mis !» Mais il ne faut quand même pas oublier que c'est elle qui a mené à la casse de la SNCF et cette fameuse réforme de l'assurance chômage qui touche tellement de précaires, dont les journalistes pigistes.
Au hasard.
Au hasard. Bref, encore une fois, ce n'est pas pour critiquer les collègues, mais la couverture médiatique est franchement à revoir. Edith Cresson, peut-être qu'elle avait des siestes à faire ou peut-être qu'elle avait envie de faire des grasses maths, bah, elle a été sortie du placard, forcée de parler partout, de commenter cette révolution qui ne devrait pas en être une, mais bon, là, on dirait Amélie Mauresmo.
Tu te transformes en Amélie Mauresmo, attention.
Je me transforme, ouais. Oups. Donc, c'est quand même un gros token, j'ai l'impression, et surtout son premier discours, que je pense sincère, pour le coup, sur les petites filles vont pouvoir voir une première ministre. Je pense qu'il est sincère, mais le battage médiatique autour ruine complètement l'effet, à mon sens.
Ouais, il y a un côté un peu girl boss, quoi.
Exactement, et en plus, c'est d'autant plus ruiné par une énorme série de couacs, déjà, de Macron saison 2. Donc, l'affaire de Perra et Stanislas Guérini sur France Info. Stanislas Guérini qui disait « Je n'empêcherai jamais la libération de la parole des femmes. » Mais en même temps, il faut regarder les choses dans leur complexité. Perra avait aussi été...
Perra, il était candidat de la majorité en Dordogne, sauf que voilà. En 2019 ou 2020, il a été condamné pour violence conjugale.
Voilà, et ce que disait Stanislas Guérini, c'est qu'elle aussi avait été condamnée, donc bon, c'est
bien
quand
sûr.
Même un peu plus compliqué.
Pas pour violence, elle, par contre.
Voilà. Il avait même dit, Guérini, je ne le pense pas capable de violence
c'est
envers
un honnête
une
homme.
Femme. C'est un honnête homme.
Bien sûr, je suis conscient du caractère symbolique et par mes propos, je veux jamais donner l'impression qu'on pourrait empêcher la libération de la parole des femmes, qu'on pourrait empêcher la judiciarisation des affaires et quand il y a des violences intraconjugales, évidemment. Et en même temps, je veux qu'on puisse regarder les choses dans leur complexité. Et parfois, les choses, elles sont un peu plus complexes.
Premier gros couac. Deuxième couac, Darmanin laissé en poste. Ça, c'est quand même chaud.
Et Stanislas Guérini qui rentre au gouvernement juste après cette déclaration.
Exactement. Ça pour moi, Darmanin, pour moi, c'était inimaginable qu'il reste. Mais bon.
Eh bien, il l'a
voilà,
fait.
Voilà, il l'a fait. Et puis, voilà, le cas Abad qui, là, rajoute un clou sur le cercueil de Macron.
De la cause.
De la grande cause, oui, exactement. Je pense que c'est juste un clou parmi tant d'autres. Hein. On va voir ce que ça va donner. Donc, Abad qui est accusé de viol par plusieurs femmes. Après, la question, est-ce que Macron, saison 2, sera toujours aussi régalien? Moi, j'ai l'impression que oui. Puisque cette composition de gouvernement, j'ai l'impression que c'est un peu une distribution des bons points de celles et ceux qui ont été fidèles, qui sont restés dans le sillage sans trop lever la tête.
Voilà. Les cadres ont été promus, clairement, même si, en tout cas, c'est le thème de sa campagne, il a promis un changement de méthode. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne se dirige pas vers ça, mais bon, 5 ans, c'est très, très long. Bon, et puis, il faut quand même noter qu'il n'y a pas que la majorité qui a des problèmes avec des hommes au comportement plus que problématique. La France Insoumise et la NUP ont dû retirer la candidature de Tahar Bouaf, qui devait être candidat à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon. Il a été accusé en interne, par la procédure interne à la France Insoumise, de violences sexuelles et de viols par plusieurs femmes. Sa candidature a été retirée 5 jours après les plaintes internes. Ça n'excuse pas le déferlement de racisme qui est arrivé sur Tahar Bouaf, dont la candidature était déjà énormément contestée avant qu'on apprenne ces informations-là.
Sinistre affaire. Et maintenant, on en est sur les législatives. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau cap?
Alors, depuis 20 ans en France, systématiquement, tous les 5 ans, il n'y a pas 2 tours de scrutin, même pas 3. Mais 4 tours d'élection. Après la présidentielle viennent les élections législatives. Cette année, ce sera les 12 et 19 juin. À la base, ce sont des élections importantes. Le président a beau avoir beaucoup de pouvoir dans nos institutions de la Ve République. S'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, en vérité, il ne peut pas faire grand-chose. On l'a un peu oublié, car depuis que le mandat du président concorde avec celui des députés et que les élections ont lieu dans la foulée, c'est-à-dire depuis 2002, en fait, le président élu a toujours eu une majorité en suivant. Parce qu'il y a une dynamique politique que les Français veulent pas forcément se dédire, et puis parce qu'il y a une démobilisation des perdants de la présidentielle qui estiment que de toute façon la bataille des législatives est déjà perdue. Est-ce que ça peut changer cette année? Peut-être bien. Déjà parce que c'est la première fois qu'un président est réélu alors qu'il a une majorité sortante à l'Assemblée. Est-ce que la dynamique sera la même que d'habitude pour les macronistes? Ensuite, l'extrême droite a bizarrement l'air de vouloir passer son tour en disant que la logique, entre guillemets, veut qu'Emmanuel Macron ait sa majorité. Bon, en vérité, Marine Le Pen sait très bien que ses chances de performer aux législatives sont très faibles. Du coup, elle essaye de limiter les attentes. Ainsi, le moindre gain de siège sera vu comme une victoire. Et puis, on a aussi vu la création de la NUP, Anne-Laure.
Ouais, la NUP. À la surprise générale, alors que la gauche était enserrée pour beaucoup de gens, y compris nos collègues journalistes, eh bien non. Après 15 ans à se ghoster, la gauche, oui la gauche, ce camp donné pour mort au début de l'année, a décidé d'un grand commun accord de s'entendre pour les législatives, ce qui est fou. C'est le genre de choses qui passait quand même pour de la science-fiction il y a 3 semaines.
Oh, on s'est parlé pendant des années. Tout le monde fait comme si on ne s'était pas parlé depuis des siècles.
Mais on s'est parlé pendant des années. Pendant la présidentielle, il y avait eu cette course en couloir, mais justement, on a entendu aussi le message des électeurs et électrices de la présidentielle.
La France Insoumise, mais aussi Europe Écologie Les Verts et les écologistes, le Parti communiste et même le Parti socialiste forment la NUP, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, on dirait,
Un médicament.
Un médicament. Tous ces partis ont décidé de présenter un candidat, une candidate unique partout et dès le premier tour. Alors ça, c'est un truc de fou. En plus, je trouve...
C'est vraiment jamais arrivé pour lui.
C'est jamais arrivé et je trouve que... C'est peut-être complètement absurde ce que je veux dire. Je trouve que leurs visuels sont jolis et
oui,
bien pensés.
Oui, une jolie charte graphique. Exactement. Ça, c'est assez rare en France.
Et puis en plus, tous les partis ont décidé de s'accorder sur un programme de gouvernement assez ambitieux et tout ça a été négocié quand même vraiment très rapidement étant donné l'extrême différence des programmes et des postures par rapport à l'Europe, par rapport au nucléaire, par rapport au travail du sexe, on va en parler. C'est pas le fameux programme commun de 1972 entre communistes, socialistes et radicaux de gauche, mais on est quand même sur le plus gros accord à gauche depuis un demi-siècle. C'est ouf, c'est un événement.
Pas un petit événement, ouais.
Ouais, et c'est aussi une bonne leçon pour les collègues, parce que la couverture médiatique qui dépose des gerbes sur la tombe de la gauche depuis la fin de la présidence Hollande, c'était n'importe quoi. Mais il faut dire que pour les journaux, pour les vendeurs de livres, la guerre d'égo a plus de sel que l'entente cordiale, ça c'est sûr. Ça fait mieux vendre.
Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup répété l'ancienne des gauches irréconciliables. Or, en fait, les gens des partis de gauche et sans doute des électeurs se sont aperçus quand on lisait vraiment les programmes qu'il y avait certes des différences, mais qu'en fait, bien souvent, elles n'avaient pas grand-chose d'irréconciliable. Notez évidemment que si la NUP reprend en grande partie le programme de la France Insoumise, que Jean-Luc Mélenchon a fait 22%, sur les questions des droits des femmes, d'ailleurs, vous pouvez vous référer à notre épisode où on venait sur les programmes précisément, je crois que c'était au mois de mars, mais tout de même, les points de vue des autres partis ont aussi été inclus. Et la NUP est favorable à l'abolition du travail du sexe. Alors, bon courage. Il faut dire que chez les communistes et les socialistes, on retrouve pas mal de féministes abolitionnistes. Visiblement, celles-là ont gagné leurs arbitrages.
Et bon courage au travail du sexe, parce que ça va être chaud.
Et puis la NUP a carrément un candidat au poste de Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon. Plutôt une bonne idée en vue de tenter de mobiliser ses électeurs et électrices du 10 avril, notamment celles et ceux qui l'ont plébiscité dans les quartiers populaires. Le leader insoumis et la NUP disent viser la victoire. En vrai, ce sera difficile. C'est vrai que les sondages qu'on a vus récemment sont plutôt flatteurs et placent souvent la coalition en tête au premier tour. Mais le mode de scrutin est ainsi fait que, dans l'état actuel des choses, ça ne suffit pas pour avoir une majorité et de très loin. Par contre, la gauche peut vraiment faire un gros coup, doubler, voire tripler sa représentation à l'Assemblée nationale, devenir la principale opposition, voire, si vraiment les planètes sont alignées, empêcher Emmanuel Macron d'avoir une majorité absolue. En tout cas, de quoi bien changer l'ambiance politique.
Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça chouette, leur petit ustensile de campagne avec le système de jauge, un peu comme quand on participe à un crowdfunding. Avec tel nombre de personnes, on peut faire ci. Avec tel nombre de votes, on peut faire ça. Tel nombre de députés. J'ai trouvé que c'était très malin, parce que très pédago.
C'est ça.
Franchement,
15 députés, on peut faire un groupe parlementaire. 57, on peut déposer une motion de censure. Je ne sais plus combien, on peut organiser un référendum. Et puis, 289 sièges, c'est la majorité.
C'est une jolie contrepartie.
C'est ça, oui. C'est des contreparties.
Et pour rappel, les élections législatives se jouent dans 577 circonscriptions au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. En gros, c'est 577 petites présidentielles dans chaque circonscription. Donc, d'ailleurs, je pense que vous avez tous vu les affiches qui pointent le bout de leur nez, voilà, un peu partout en France. Seules différences sont qualifiées pour le second tour, les deux premiers, mais aussi celles et ceux qui ont obtenu 12,5% des inscrits. Donc il peut y avoir des triangulaires, très rarement des quadrangulaires. Mais bon, comme on peut s'attendre à une maigre participation, il faut rappeler qu'il y avait quand même 50% de participation en 2017, ce qui est quand même rien du tout. Les gens préfèrent faire des barbecues en cette saison, je crois, que d'aller voter, ce qui est chaud. Dans les faits, il devrait y avoir quand même peu de triangulaires. On peut aussi dire que depuis 20 ans, l'État incite à la féminisation de l'Assemblée nationale, ce qui commence à porter ses fruits, j'ai l'impression.
Un petit peu.
Les partis sont tenus de présenter environ 50% de femmes, faute de quoi ils se retrouveraient avec une décote sur leur dotation de financement public, et Dieu sait que les partis ont besoin d'argent.
C'est important.
Et ça a eu un effet lent, très très lent, quand même, à noter.
Ouais, parce que les partis ne sont pas obligés de présenter des candidates dans les circonscriptions qui sont gagnables pour eux.
Mais tout de même, on est passé de 11% de femmes élues à l'Assemblée nationale en 80. 97 à 39% en 2017, ce qui est déjà bien. Donc, on va attendre cette prochaine séance avec attention.
Bon, alors, il y a quelques courses intéressantes là pour ces prochaines élections législatives. On parlait de Sandrine Rousseau tout à l'heure. Est-ce qu'elle aura une tribune à l'Assemblée nationale? Elle se présente pour la NUP dans le quartier de Tolbiac à Paris. Elle est, à mon sens, favorite.
Imperdable, oui.
La France Insoumise présente aussi la candidature de Rachel Keke. Vous savez, c'est la leaduse des femmes de chambre grévistes de l'hôtel Ibis des Batignolles. Elle sera candidate dans la circonscription de Thiers, dans le Val-de-Marne, et elle a aussi de bonnes chances de gagner. Mais attention, elle fera quand même face à une autre personnalité, l'ex-ministre des Sports, Roxana Maracineanu, sous les couleurs macronistes. Ce sera globalement intéressant de voir si une éventuelle poussée de la NUP voit aussi l'arrivée de plus nombreuses femmes, de militantes féministes, antiracistes, LGBTI, de personnes racisées à l'Assemblée nationale. Déjà, les accords entre partis ont sacrifié pas mal de ces profils-là. Par ailleurs, la première ministre Elisabeth Borne, qui n'a jamais été candidate à aucune élection, se frotte cette année au suffrage. Elle sera candidate à Vire, dans le Calvados. Une circonscription, a priori, sans grand risque pour elle.
Ouais, et par contre, c'est son suppléant qui va avoir beaucoup de taf.
Certes.
Première hypothèse. Macron a sa majorité absolue. On peut se dire que cette majorité avec Le Maire et Borne, ça veut dire casse sociale fois 1000. Ils vont bien récupérer les conséquences du quoi qu'il en coûte dans les poches des plus pauvres. Le gouvernement sera sans doute un peu plus remanié, mais franchement, à la marge. Deuxième hypothèse, les macronistes sont bien en tête, mais sans la majorité absolue. Donc là, pour faire passer leur projet, genre la réforme des retraites, ils vont devoir trouver des compromis avec d'autres partis. Donc on peut se dire que c'est peut-être un petit peu plus intéressant, voire il y a un tout petit peu plus d'espoir. Troisième hypothèse, la gauche qui gagne. Bon, c'est un pari, mais là, on peut entrer dans du jamais vu dans la vie politique de notre pays. Donc, on peut espérer que ça se passe comme ça. Entre un Jupiter qui vient d'être élu et une assemblée opposée qui est élue immédiatement après, le conflit de légitimité constitutionnelle est total. Ça ressemblera pas du tout aux précédentes cohabitations, ça c'est sûr.
Si ça arrive, là, je vous le dis, sortez les pop-corns.
Sortez les pop-corns.
C'est tout pour nous aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
Salut Rachel.
Salut Anne-Laure. Quoi de neuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Rédaction en chef Clémentine Gallo. Journaliste chroniqueuse Rachel Garaval-Carcel.
Anne-Laure Pinault.
Mixage et montage Laurie Galigani. Prise de son par Adrien Beccaria à l'arrière-boutique. Générique réalisé par Aurore Mailleux. Réalisation et coordination Cassandra de Carvalho et Mathilde Jeunin.